de pierres et de notes, votre rendez-vous musical, orchestré par Blandine Piccinini.
Bonjour, bienvenue dans l'émission de Pierres et de notes. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Yves Gourina, professeur des universités en physique, structure et organiste. Nous allons parler de la relation entre l'orgue et la physique. Bonjour Yves.
Bonjour Blandine.
Tout d'abord, quelle est la relation entre la machine qui est l'orgue, un concept physique finalement, avec la physique et, qui est un contenu visiblement plus concret qu'il n'en est?
Alors, je crois qu'il faut revenir aux origines de l'instrument. L'orgue n'est pas un instrument comme les autres, car nous avons l'histoire de son origine. Et la flûte, par exemple, est impossible de dire d'où elle vient. À partir du moment où des êtres humains ont soufflé dans un roseau, il y a eu des flûtes. Je ne parle pas des percussions, où là c'est carrément des cailloux, et même les cordes. À partir du moment où on a eu un arc, l'arc d'Ulysse, par exemple, d'ailleurs Homère en parle même, qui émet des notes de musique, bon, la harpe a été inventée, on n'a pas la trace. L'orgue, Héron d'Alexandrie, nous raconte qu'un ingénieur qui s'appelait Ctésibios, voyant son épouse qui jouait du hautbois, s'est inquiété de la voir s'époumoner, et il a eu l'idée de créer une soufflerie artificielle. Il a tout créé d'un coup, en fait, la soufflerie artificielle. Les tuyaux à son fixe, il en a mis 8, les 8 de la gamme. C'est très impressionnant parce qu'on a même le dessin originel de Héron d'Alexandrie. Et donc, il a inventé le système de commande, le système que je qualifierais même de pilotage, qui est le clavier. Donc, il a inventé les trois caractéristiques de l'orgue. Et celle qui va nous fasciner le plus aujourd'hui, c'est que l'orgue est à la fois un instrument de musique et une machine. Et donc, on ne joue pas de l'orgue, en réalité, on pilote de l'orgue, et on pilote une énergie qui ne vient pas de nous. Et donc cet instrument a eu dès le début ce côté mystérieux que n'a aucun instrument classique. Prenez un violon par exemple. On produit l'énergie en faisant glisser l'archet, bien sûr. Mais l'archet, il a une longueur finie, ça ne nous a pas échappé. Et donc on arrive au bout, le bras aussi d'ailleurs, on arrive au bout, et quand on arrive au bout, on est obligé de s'arrêter, on ne peut pas mettre des notes indéfiniment longues. Sur un orgue, c'est un instrument véritablement intégrateur au sens temporel. Quand on appuie sur une note, tant qu'on ne la relâche pas, elle ne s'arrête pas. Vous allez vous fatiguer avant l'instrument. Et puis, il a aussi cette caractéristique extraordinaire, c'est qu'il rassemble de la mécanique et des tuyaux d'une variété extraordinaire. Et là, il y a un côté mystique qui est fabuleux, qui fait penser au peuple de Dieu, en fin de compte. Chacun de ces tuyaux, du plus grand au plus petit, joue son rôle. Le plus petit n'est pas moins important que le plus grand. Chacun a sa place.
Dans cette, justement, structure de l'espace, vous souhaitez nous faire écouter une improvisation de vous sur un extrait de « Ainsi par les Zarathoustra », où on peut transposer ce que a voulu dire le compositeur Strauss, peut-être à l'orgue, puisque c'est un instrument pluriel. Comme vous disiez, chacun a sa place, le plus grand, le plus petit.
Et si j'osais, je dirais c'est aussi un instrument spatial. Petit échantillon du grand plénum. Alors Bach, quand il essayait un instrument, en fait j'ai fait comme Bach, il tirait tous les jeux et il voulait voir ce qu'il appelait les poumons de l'instrument, qu'il avait effectivement le souffle. D'ailleurs le souffle en grec, pneumon, c'est l'esprit au passage. Donc voyez, on a un instrument ici qui a beaucoup d'esprit, puisque vous l'avez entendu, je ne sais pas combien il y a de tuyaux, 800 à peu près là, qui parlent. Donc on a entendu tout finalement, le cœur, le cœur qui chante ensemble. Donc c'est effectivement le mystère de cet instrument.
Quelque part, quand vous parlez de physique, c'est physique concrète, mais oui. En fait aussi...
Physique appliquée.
Qu'est-ce que c'est pour vous ?
C'est l'ingénierie. Ctésibios était ingénieur. Et il a travaillé d'ailleurs avec un autre ingénieur qui vivait à la même époque et qui l'a rencontré, c'est extraordinaire, qui était à Syracuse et qui s'appelait Archimède. Nous voilà dans le bain. Effectivement, Syracuse, Archimède, Ctésibios travaillait sur l'hydraulique, sur les fluides, et d'ailleurs sa première soufflerie était une soufflerie hydraulique. Et c'est le nom de l'instrument à l'époque, c'était hydrol, hydrolos, c'est-à-dire l'aulos, le hautbois, à eau. Il n'y avait pas d'eau dans les tuyaux, c'était de l'eau qui était utilisée par pression hydrostatique pour maintenir cette soufflerie, cette pression d'air constante. Évidemment, ce n'était pas très commode parce qu'en hiver, ça gèle, etc. Donc, on a ensuite inventé le soufflet. Mais l'idée, c'était ça. C'était d'avoir, de jouer sur la physique des solides, des fluides, pour maintenir l'énergie dans les tubes. J'en profite pour dire que physique appliquée, ça veut dire que le métier de facteur d'orgue est un métier très compliqué parce qu'il faut maîtriser toutes les branches de la physique. Il faut être ébéniste, il faut être métallier, il faut être mécanicien, il faut être acousticien, il faut être tuyautier, il faut être tout un tas de choses. Donc c'est un métier difficile. J'en profite pour dire d'ailleurs que nous commençons à manquer de facteurs d'orgue parce qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes qui veulent se lancer là-dedans. C'est un métier compliqué. Il faut faire pas seulement de la physique, mais moi j'ai une grande admiration pour eux. Il faut faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses.
C'est grâce à eux aussi si l'orgue sonne bien.
Oui.
Et là aussi, il faut l'accorder grâce à eux et selon les saisons.
Absolument.
Donc effectivement, là encore, on retrouve la physique parmi la problématique.
Comme un avion, hein. Il faut l'entretenir, il faut le suivre, il faut le maintenir, il faut le piloter, il faut le choyer.
Par contre, donc effectivement, ce qui n'est pas mystérieux pour eux, pour nous en tant qu'organistes, parfois on recèle des mystères dans l'orgue parce que c'est un instrument pluriel et original. Il a plusieurs caractéristiques, mais on lui donne aussi un caractère qui appartient à la fois à quelque chose de très orchestral, mais aussi très très doux. Et aussi, on a cette particularité qu'il a des sons originaux, mais nous aussi, quand on joue, on est de manière soliste et on parle aussi à Dieu dans cette espèce de mystère.
Donc, et de manière différente.
Oui.
C'est très étonnant, ces jeux sont tous différents, mais ils parlent la même musique. Et j'ajoute qu'il y a même des jeux qui sont légèrement désaccordés volontairement les uns par rapport aux autres pour donner un effet de vibrato. C'est-à-dire le vibrato qu'on a sur le violoncelle, on voit toujours les violoncellistes ou les violonistes qui font leur vibrato. Eh bien, d'ailleurs, c'est lié à plein de choses sur le tempérament, il faudrait une émission pour parler de ça, mais peut-être une autre fois. Mais il y a des instruments, et vous avez la chance sur cet instrument d'avoir une voix céleste. Quand vous le tirez avec la gambe, il y a un très léger désaccord entre les deux qui donne cet effet, d'ailleurs voix céleste, ça fait rêver, hein, qui donne cet effet un petit peu mystérieux, et qu'on peut faire contraster avec d'autres jeux qui, eux, sont beaucoup plus stables pour donner justement cette vision mystique de la prière, de la contemplation, de la vie de l'esprit, hein, tout simplement, dans la diversité et dans la durée aussi. Donc, sur ce genre de jeu, on peut, et ça c'est très ancien, Frescobaldi, c'est vieux ça quand même, c'est la Renaissance, l'exploitait sur les orgues italiens. On croit parfois que ces jeux ondulants sont une invention du 19e siècle, c'est pas vrai du tout. À la Renaissance, les orgues italiens avaient un jeu qui s'appelait la voce umana, qui était ni plus ni moins que ce que nous appelons aujourd'hui la voix céleste, c'est-à-dire des jeux légèrement désaccordés, que je peux vous faire goûter si vous le souhaitez, pour comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Qui en même temps va nous faire entrer dans la temporalité de l'orgue. C'est-à-dire, je vais vous improviser sur des choses qui sont très lentes, et un peu comme Olivier Messiaen, hein, qui sont finalement hors du temps. Alors, il faut quelques secondes, puisqu'on est dans le temps, hein, il faut quelques secondes pour mettre les jeux bien, vous voyez, pour de nouveau régler l'instrument. Donc, je mets la sous-basse à la basse pour donner, comme son nom l'indique, le soubassement, la solidité. Je mets la gambe et la voix céleste au récit, voyez, pour donner ce mystère initial. Et puis je vais mettre un simple bourdon de 8. Peut-être j'ajouterai la montre en cours de route, hein, quand nous verrons où tout cela nous emmène. Et donc je vais commencer par des accords. Alors est-ce que la boîte expressive est ouverte? Oui. Vous entendez? Vous entendez ce son mystérieux? Thank you. Une petite minute en dehors du temps que nous offre l'orgue.
Revenons à ce mystère de l'orgue. Oui. Pour terminer cette émission, vous nous avez dit aussi que c'était un intégrateur. Qu'est-ce que vous entendez par là?
Effectivement, il y a l'intégration dans le temps. Ce que c'est que l'intégrale dans le temps, c'est que quand vous donnez la commande, oui, parce qu'on va faire la commande de système, au lieu de récupérer simplement le signal, eh bien, il va l'intégrer dans le temps. C'est-à-dire qu'il va durer. Chacun des sons, si vous voulez, devient une traînée, on va dire ça comme ça. Et à chaque fois que vous jouez une note, ça n'est pas vraiment la note que vous jouez, mais quelque part, vous déclenchez quelque chose, et ce quelque chose perdure. Alors ça, c'est propre à l'orgue. Même le piano ne le fait pas. Parce que, excusez-moi, mais le piano, quand vous appuyez, c'est un piano, c'est un instrument à percussion. On l'oublie, c'est pas un instrument à cordes, c'est un instrument à percussion. Et le piano, quand vous appuyez sur une note, il y a un Dirac, je parle le langage du physicien, un pic, et puis le séisme va très 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 vite s'amortir. Même si vous mettez là, on peut tricher en mettant la pédale, on le fait ça, qui ne l'a jamais fait. Et donc, mais malgré tout, ça se noie dans la résonance, mais ça décroît très vite. Sur l'orgue, il y a cet effet extraordinaire d'intégration dans le temps. Et puis il y a l'intégration dans l'espace. Il suffit de regarder un buffet, non pas à l'extérieur, parce que ce qu'on voit, ça n'est rien. Enfin, c'est une grande leçon de la vie et de la physique. Ce qu'on voit n'est rien par rapport à ce qu'on ne voit pas. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le petit prince. Ce qui est important, ça ne se voit pas. Et donc, dans les orgues, c'est pareil. Quand on ouvre l'instrument, on s'aperçoit qu'il y a une forêt, c'est le mot. Une forêt, on est au milieu d'un univers merveilleux. On est un peu comme Blanche-Neige au milieu de la forêt, avec des milliers, des centaines en tout cas, mais dans les grands instruments, c'est des milliers de tuyaux. Et alors, ce qui frappe beaucoup, c'est la diversité extraordinaire de ces tuyaux. Ils ont des formes extrêmement diverses, des matériaux, des longueurs, des largeurs, tout est différent. Il y a des tuyaux qui sont des sifflets, d'autres qui sont des anches mécaniques avec des lames qui vibrent, etc., etc. Et ce qui est extraordinaire, c'est l'intégration de tout cet ensemble, la diversité qui fait le grand cœur. Qu'on a entendu tout à l'heure, le Zarathustra de Strauss, c'est assez extraordinaire, c'est une leçon de vie en fin de compte, de s'apercevoir qu'avec des matériaux, des formes aussi diverses, on arrive à faire quelque chose qui donne une unité extraordinaire. Donc oui, il est intégrateur quantitativement dans le temps et qualitativement dans l'espace par la variété. Et donc c'est une leçon de vie.
Merci Yves Gourina. À bientôt dans l'émission de Pierre et de Notes.
C'était de Pierre et de Notes, une émission présentée par Blandine Piccinini sur Radio Présence Lot.